Donc bonjour à tous. On est très très content d'être ici, d'autant qu'en fait c'est vraiment né d'une rencontre avec Jean-Noël qui avait pour idée de faire cette manifestation-là. Puis du coup on s'est greffé avec bonheur. Et donc c'est la 28e journée de notre projet. Alors on va vous présenter rapidement. On va quand même rappeler, même si je pense que vous savez tous ici, mais il y a des fois on s'adresse à des publics qui ne le savent pas, de quoi on parle. Alors on est en 1976 et de manière simultanée dans, on va dire, les démocraties occidentales, tout un tas de petites formations musicales se désignent, donc elles-mêmes, ou s'autodésignent, enfin se désignent dans la presse, dans les médias, ou s'autodésignent comme punk, un terme argotique anglais qui appartient à toute cette série de jurons fuck, shit et punk, et qui signifie vaurien, voyou, prostitué, enfin quelque chose qui n'est pas du tout recommandable. Là, on a mis une photo d'un fanzine bien connu, Sniffing Glue, sniffer de la colle, on est déjà dans l'ambiance. Et on a mis ça parce que, ce que disait Jean-Noël, le punk, c'est d'abord une révolution musicale, avant d'être politique. Vous voyez, vous prenez un accord, vous en prenez un deuxième, un troisième, et puis vous faites un groupe. Ça s'oppose évidemment à tout ce qui se passait avant, dans les années d'avant, dans le monde de la musique progressive, avec des formats de 30 minutes, joués par des groupes qui maîtrisaient bien un instrument, qui savaient composer, qui avaient des techniques d'enregistrement très très poussées. Et là, c'est tout l'inverse. On revient aux sources prétendues du rock'n'roll, on prend trois accords, même si on ne sait pas jouer, et on joue. Même si en fait, on découvrira que souvent les gens savent très très bien jouer et font semblant de ne pas savoir jouer. Mais ça, c'est une autre question.
Alors, en France, cette tendance s'illustre tout de suite par un certain nombre de groupes. Alors, on a mis ici Star Shooter, parce que c'est assez représentatif en fait ce qui se passe. Le punk, c'est tout de suite quelque chose de subversif, c'est la dérision, c'est le détournement. Et la pochette de ce 45 tours, qui sera finalement sortie des bacs, parce que les Star Shooter avaient la même maison de disques que les Beatles, mais ils n'ont jamais demandé l'autorisation de faire cet enregistrement et cette parodie. Get Back Eux, c'était une manière de se moquer et de dézinguer un petit peu tous ces monuments dorés à leur fin, qui étaient les grands groupes, les Beatles notamment, les groupes de stade, bon, et puis tout un tas d'institutions en gros, dézinguer la musique établie. Et puis on y va carrément. Hein. Les Beatles, c'est un groupe de nuls, pour ringards, moi j'en ai rien à foutre, etc., etc. Bon, on en a marre de cette musique de merde, ça commence comme ça, hein, la chanson. Donc avec Star Shooter, on est directement dans l'ambiance. Je ne sais pas si on a un extrait son. On n'a pas d'extrait son. Bon, c'est pas grave.
Alors en France, on a la primeur du premier festival, Punk Rock de Mont-de-Marsan, qui se tient première édition en 76 dans les Landes, donc dans les arènes de Mont-de-Marsan. Alors, juste trois petites photos qu'on aime bien montrer parce que elles nous paraissent intéressantes. On voit tout le tuilage générationnel. Ça serait idiot de penser que en 76 arrive une génération punk. Il n'y a pas de génération spontanée. Donc, on voit qu'il y a encore des cheveux longs. Il n'y a pas le cuir qui s'impose tout à fait partout. Il y a du spike. Je précise même pas qu'il n'y a pas de crête, hein, à cette époque-là, contrairement à l'image la plus répandue qu'on a.
À part le bassiste des Maniacs, c'est le seul à cette époque-là qui a une espèce de mohawk. Mais...
Voilà, donc là, on voit bien l'espèce de tuilage générationnel qui est en cours.
Voilà, et puis le look de cette première génération punk qui tourne autour des fringues déchirées, de tout ce qu'on va pouvoir détourner, c'est quand même du bricolage. Hein. Alors, on est vraiment dans cette espèce de bricolage. On dira après le do-it-yourself, on l'a un petit peu labellisé, mais avec des bouts de tissu qu'on a recousus, et la fameuse épingle à nourrice qui devient le symbole de cette première génération, alors qu'on la porte comme ça sur les vêtements, ou qu'on essaye d'en faire déjà des piercings, ou même éventuellement qu'on fasse semblant, hein, de se percer la joue. Hein. Bon, voilà. Et puis, dans la perspective de cette première génération et des détournements que j'évoquais tout à l'heure, c'est une manière de communiquer autour de supports tout à fait nouveaux. Alors le fanzine, parce qu'on en a montré quelques-uns, mais même si le fanzine n'est pas une invention des punks, puisque on connaît ça depuis les années 30 et notamment dans le milieu de la SF, les punks vont en faire leur outil de promotion en quelque sorte. Le fanzine va devenir l'outil de communication, voilà, avec toujours cet esprit de détournement, de dérision. Bon, par exemple dans ce fanzine qui est l'écho des sauvages, c'est un petit truc qui est fait par des lycéens qui vont au festival festival de Mont-de-Marsan et qui vont commenter au jour le jour ce qu'ils voient. Et à l'intérieur, ben, on a par exemple cette carte de France où Mont-de-Marsan est partout. Hein, Mont-de-Marsan est partout parce que c'est le cœur du monde à ce moment-là avec ce festival qui est quand même organisé dans un lieu un petit peu improbable.
Alors on est en 78, là, l'épisode se sépare. Et pour beaucoup d'acteurs de cette époque, la période 76-78 va marquer, ça sera la seule période punk. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant quand on est historien, parce que nous, on travaille sur 40 ans d'histoire. Pour beaucoup d'acteurs, la seule vraie pure génération, ça va être 76-78.
Bah, à cette époque-là, tout le monde dit le punk est mort. Hein, et on va, d'où le slogan dans la génération suivante, punk's not dead. Hein, ce qui est intéressant, on peut le dire tout de suite, ce qui nous a intéressé hein, dans le fait de travailler, de construire cet objet punk, c'est tous les paradoxes en fait autour desquels il se construit. Et le paradoxe du temps, de la durée, de la survie même, est quand même, n'est pas un des moindres paradoxe de cet objet. Alors, on va aller très vite pour essayer de contextualiser. Tu as parlé de Thatcher tout à l'heure. Les années 80 sont marquées à la fois par cette tendance libérale, néolibérale qui arrive, et puis par ces révolutions conservatrices en même temps. Hein. Alors, à la fois incarnée, à la fois par Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre. Et on voit que tout cela s'accompagne en réalité d'une espèce de réaction du mouvement punk qui se réinvente, hein, pour le dire très très vite, avec aux États-Unis des groupes comme les Dead Kennedys, qu'on considère aujourd'hui comme un des groupes qui vont amener quelque chose qui s'appellera plus tard le hardcore, les Dead Kennedys, avec des textes extrêmement politisés. Alors, autant la première génération apparaît comme une contestation de l'establishment, pour le dire très vite, sa politique, c'est la contestation de l'ordre, de piliers comme l'Église, etc. Mais la seconde génération, celle qui arrive, va être politisée au sens de la politique politicienne. On va prendre parti politiquement. Et Jello Biafra, qui est le leader, par exemple, des Dead Kennedys, va s'engager politiquement. Il va même briguer la mairie de San Francisco et faire sa campagne politique sur scène. Hein, donc là, on change de paradigme, en quelque sorte. On passe d'une génération qui était politisée au sens de la contestation de la société, globalement, à une génération qui va contester localement hein, des pouvoirs politiques en place. Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre, et l'autre groupe, évidemment, qui illustre au courant, c'est Crass en Angleterre, qui était formé assez tôt, hein, 77, mais qui va vraiment prendre son vol dans les années 80. Et alors, on verra en France ce que ça donne. Et une troisième génération qu'on a identifiée. Alors, cette histoire, on pourrait parler de vague. Hein, une troisième vague qui va plutôt s'inscrire à partir des années 90 dans un mouvement beaucoup plus global. Hein, c'est un petit peu l'image du village global, la mondialisation et des nouvelles thématiques qui vont émerger, très marquées par l'écologie, par la culture vegan, et puis par une espèce d'hybridation des looks, c'est-à-dire que le punk se réinvente, hein, je passe très très vite sur cette histoire, le punk se réinvente tant dans la musique qui va s'hybrider, tant dans les looks, on pourra en discuter, mais parmi les punks d'aujourd'hui, les générations actuelles, on est revenu pour beaucoup à des looks que n'auraient pas désavoué les hippies des années 70, avec des cheveux beaucoup plus longs, etc. Hein, bon. Et une posture aussi différente.
Voilà, jusqu'au déplacement. Donc on a dit, quand on a commencé à parler, là, qu'au début, ça avait touché les démocraties occidentales.
Blanches.
Là, on est en Indonésie, je crois. Et vous voyez, on est en 2012. Plus de 60 punks ont été arrêtés, frappés et emmenés de force dans une école située à 60 km de la ville d'Aceh pour y être rééduqués. Là, on voit que le punk se joue au péril de sa vie. Donc c'est assez différent d'être punk sous Giscard, hein, vous vous en doutez bien. Avec donc tout ce que va porter effectivement le punk en termes de revendications et de lutte politique, un déplacement très très clair d'objet. Alors notre projet, il sert à quoi ? On a mis un peu de blabla, mais on va aller assez vite. La première chose qu'on voulait, c'est que quand on a commencé à travailler, on s'est rendu compte déjà qu'il n'y avait aucun travail de recherche qui avait été fait sur la France.
Et globalement, d'envergure.
Et que quand ça avait été fait par des anglo-saxons qui avaient une vision complètement fausse du mouvement. En gros, c'était un mouvement d'import. Ça n'avait touché que Paris, Rouen. Et en gros, c'était même pas digne d'être étudié. Tout ça parce que ces auteurs-là, c'est pas qu'ils étaient anti-français, c'était plutôt qu'ils s'appuyaient sur des sources genre Eudelin, pour faire vite, qu'ils critiquaient pas, qui étaient pas mises en relation avec la parole des acteurs, éventuellement d'autres sources qu'on pouvait trouver. Et donc on s'est dit qu'on allait quand même essayer de montrer l'importance et l'originalité du punk en France, sachant que, alors on en reparlera aujourd'hui parce que ouais, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est très souvent chanté en français, le punk, en France. Et l'autre idée qu'on a eue, c'était à revers, montrer l'impact du punk français à l'extérieur du territoire national, se poser la question des liens à l'envers, ou en gros, comment les groupes français avaient éventuellement pu influencer les groupes à l'étranger.
Ça pose aussi la question de la circulation, évidemment, de la culture. Tu évoquais cette dimension culturelle. Bon, on se rend compte qu'il y a... c'est pas figé, c'est pas statique, le punk, c'est quelque chose qui circule, et très tôt, en réalité, et pas seulement la musique, mais la manière d'en parler. Hein, donc, cette question, elle est assez fondamentale. Si on prend, juste pour donner un exemple, quelqu'un comme Esteban, qui était le créateur du magasin Harry Cover à Paris et qui a fondé un fanzine qui s'appelait Rock News avec Lizzie Mercier-Desclou. Bon, il est déjà en 73-74 à New York, et puis il voit naître cette scène autour du CBGB, et il ramène cette culture-là, enfin il la fait circuler dans son fanzine. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder où c'est et comment ça circule, cette culture-là, quel type d'échange et quel type de forme d'hybridation, de contact se noue au fil de cette musique punk, de cet art. Voilà.
Alors, la deuxième chose qui nous importait, c'était de travailler sur les marges. Alors, c'est pas beaucoup plus révolutionnaire, enfin, c'est une grande tendance de l'histoire, on va dire, depuis mai 68, de s'intéresser aux marges. Ça peut être la sorcellerie, enfin, ça peut être plein d'objets. Donc, nous, c'était un objet marginal parmi d'autres, même si c'est pas tout à fait un objet marginal, enfin anodin, c'est un objet musical et ça correspondait bien à ce sur quoi on voulait travailler. Et l'idée, c'était de voir vraiment comment ce que la marge pouvait faire à la société et en retour ce que la société faisait de la marge. Là, c'est drôle parce qu'on est à Paris et au Bon Marché, donc rive gauche, il y a une exposition sur le punk. Donc tout le monde m'a envoyé une photo en disant « Ah, regarde, il y a une expo sur le punk. » Donc les pantalons, ils sont à 1 500 €. Il y a des caniches avec des crêtes. Et on s'est dit « Ben oui, on travaille exactement là-dessus, en fait, sur comment la contre-culture est récupérée par la culture mainstream et vidée de sa substance de subversion. Et finalement, comment la société a intégré les marges. » Et en retour, on constate aussi que les marges ont assez intégré la société. On est assez surpris de voir une nouvelle génération punk, une troisième ou une quatrième génération, qui par exemple nous dit « on fume plus dans les squats parce que ça fait mal aux poumons, on pogote plus parce que c'est dangereux, on n'écoute pas de la musique
fort,
ça fait mal aux oreilles ».
Et on se dit qu'en fait,
voilà, ces marges-là ont quand même intégré les normes sociales. Enfin, il y a 40 ans, les premiers punks, c'est pas vraiment ce qu'ils auraient dit.
Ouais. Et on est obligé de considérer ce monde-là, puisqu'il y a une forme d'autodésignation. Hein. Les gens nous disent on est punk, mais bon, le pogo, c'est un truc de bof. Voilà, donc c'est quand je parlais de paradoxe, hein, c'est ça aussi. Hein. C'est sur 40 ans, une construction un petit peu compliquée. Sur ce deuxième point, il y a autre chose. Tu as parlé du MEDEF tout à l'heure, mais alors c'est fascinant. Dans la manière par laquelle les marges, d'une certaine manière, amènent quelque chose à la société, structurent le monde, on se rend compte que le punk, ça a été aussi une matrice, mais presque du point de vue ontologique, hein, pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, ils sont rentrés un moment dans le punk, ils en sont sortis, ils en ont fait quelque chose. Mais nous, on connaît des gens qui sont au MEDEF et qui nous disent « Oui, moi, j'ai été punk. J'ai été punk, j'avais les cheveux verts. » C'est beaucoup plus compliqué que ce que tu évoquais. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait maintenant, on a identifié tout un tas de gens qui sont dans... Alors, il y a nos collègues, d'abord, et pas des moindres. Hein, je donnerai pas de nom, mais... Parce que tout le monde n'est pas sorti du placard, de manière de le dire. Il y en a dans les médias, il y en a dans le monde des affaires, et pas des moindres non plus. Bref, le punk, c'est aussi... Alors, on parlait d'une matrice de résistance qui s'est mondialisée, mais aussi quelque chose qui a construit les gens. Et tous nous disent, mais moi, je vois pas le monde de la même manière. Et c'est sans doute vrai. Donc ça aussi, c'est fascinant de regarder comment le punk nous aide à comprendre le monde aussi sur ses trajectoires, voilà, de vie. Hein, c'est carrière au sens sociologique du terme. Hein.
Et le troisième point, c'était donc ce qu'on a appelé proposer une lecture nouvelle de l'histoire de France dans un monde en crise. L'idée, c'était vraiment de s'interroger sur 40 ans de punk, donc sur le temps long, en postulant qu'il y avait eu non pas un punk qui était mort en 78, mais quelque chose qui s'était renouvelé sur 40 ans et puis aussi tuilé, parce que en 78, tout le monde ne meurt pas. Donc les gens, ils continuent à évoluer dans un mouvement qu'ils ont connu, qui se superpose à une deuxième strate d'un mouvement qui n'est pas tout à fait le même, etc., etc. Donc c'était vraiment de travailler sur un temps, alors pour un antiquisant, j'ose pas dire long, parce que 40 ans, c'est vraiment pas très long, mais de travailler sur un temps contemporain qui quand même était suffisant en ampleur pour travailler correctement.
Avec tous les conflits de mémoire que ça suscite, quand les gens disent ben non, le punk c'était entre 76 et 78, les autres disant ben non, le punk c'est maintenant, avant vous êtes des proto-punks. Donc c'est compliqué, les gens ont une vision extrêmement auto-centrée de ce que peut être leur aventure punk. Il y a des conflits de mémoire, on travaille aussi dans cette perspective-là sur comment se sont construits des mythes dans cette histoire-là, des grands moments par exemple, qui fédèrent. Alors les grands moments sont parfois pas tout à fait vrai, mais en même temps, ça structure une communauté. Et c'est assez fascinant de travailler sur cette guerre ou cette concurrence des mémoires, sur la mise en parallèle entre ce qui peut être de l'ordre du factuel, d'où l'intérêt de trouver des archives, et puis du construit, c'est-à-dire voilà, comment on a réinventé. Tout ça se compliquant parce que les gens, comme aurait dit Bourdieu, ont tendance à se faire les idéologues de leur propre vie, et donc on reconstruit sa propre vie au fur et à mesure qu'on déroule le récit.
On va accélérer parce que
qu'autrement on en a pour une heure.
Alors le projet, il y avait trois choses qui nous importaient vraiment. La première, c'était de casser les formes d'illégitimité de l'objet, à la fois dans la société. Si vous vous baladez dans la rue, vous demandez ce qu'est un punk, on va vous dire que c'est un type avec une crête, éventuellement un treillis devant la gare et son chien. Et qui fait chier tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est du côté social. L'autre côté, c'était du côté institutionnel. La première fois qu'on est arrivé avec Luc au CNRS, qu'on leur a dit à notre direction, on va travailler sur le punk, ils nous ont dit, mais oui, bien sûr, en rigolant un grand coup. Après, ils ont moins rigolé quand on a eu un financement de l'ANR à laquelle on est très reconnaissante. Enfin, moi, je suis pas pour l'ANR, mais je suis très reconnaissante d'avoir eu ce financement-là qui nous a permis d'avoir un peu plus de légitimité et surtout de lancer le projet convenablement. Et donc, l'idée étant de travailler sur un objet sale, peut-être, mais de le faire exactement comme on l'aurait fait avec... Moi, avant, j'étais spécialiste de l'opéra baroque, exactement comme je l'aurais fait avec la musique baroque, ni plus ni moins. La deuxième chose, c'était la préservation d'une mémoire en péril. Ça, c'est vraiment un point central dans le projet qui explique aussi pourquoi, en 3 ans, on en est à la 28e journée d'études. Parce qu'on s'est rendu compte, vous avez tous vu la disparition de Philippe Pascal la semaine dernière, même si c'est suicidé sûrement, mais tout le monde est en train de mourir dans la première génération. Mourir égale archives qui sont mises
première
à la benne.
Et deuxième génération.
Donc les archives, elles partent à la poubelle, et sans archives, pas d'histoire. Donc en gros, si on ne se dépêche pas de collecter, de faire parler les gens, eh ben, on ne pourra pas écrire cette histoire, et puis un jour, on nous dira peut-être même qu'elle n'a jamais existé. Et la troisième chose,
c'est qu'on a considéré, et on revient toujours à ce que tu disais, que le punk, au départ, c'est une musique. Si vous enlevez la bande-son du punk, il n'y a plus de punk. C'est pas compliqué. Il suffit de faire ça. Alors ça, c'est une posture scientifique qui est intéressante, parce que quand on voit nos collègues anglais, par exemple, dans le réseau Punk Scholar Network, qui est un petit peu l'équivalent de ce qu'on fait ici en France, mais en Angleterre, ils sont à Birmingham, mais eux considèrent que le punk, c'est avant tout politique. Alors c'est intéressant, parce qu'on n'a pas les mêmes approches. Ils ont une conception du punk qui est avant tout politique, la musique étant plus ou moins secondaire. Et vous voyez qu'on peut poser les choses de manière différente d'un pays à l'autre, d'une école scientifique à l'autre. Alors nous, notre credo, c'est évidemment que la musique est au centre. Il n'y a pas que la musique, évidemment, mais c'est le premier cercle, voilà, à partir duquel on va se déplacer.
Et le petit dessin, les petites figures en bas, en fait, c'est aussi pour illustrer le fait que ce projet s'est construit non pas contre les acteurs, mais avec eux. Et bon, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de faire participer chacun au niveau de ses compétences et de ses savoirs. Ce qui n'est pas sans difficulté, parce qu'en fait, alors je vous mets une petite photo, voilà, ça c'était à Caen, le public était assez mixé, c'est pas tout à fait le public d'antiquisant que tu as, Jean-Noël, d'habitude, je pense. C'était une journée pas facile à gérer du coup, parce qu'il y avait, il y en a qui voulaient aller dans la salle, il y avait de la vie. Ce qui fait qu'il y a certains enseignants-chercheurs qui partent de l'équipe parce qu'ils ne supportent pas d'être qu'on les contredise au beau milieu de leur communication. Enfin voilà, donc ça nécessite un petit effort d'adaptation pour tout le monde, mais je pense qu'on peut dire que Peindre, c'est vraiment un projet qui crée du lien social à travers ses connaissances et que c'est quelque chose qui pour nous importe beaucoup. Alors là, on va vraiment. Là, je vais passer sur ce côté les archives pour faire l'histoire.
Notre credo ici, c'est qu'il n'y a pas d'histoire sans archives. C'est voilà. Pas nouveau. Mais comme j'évoquais cette question, il faut quand même se rendre compte que le punk, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible. Quand les gens vous racontent leur vie, quand ils en parlent ou quand ils en discutent entre eux, c'est vraiment un sujet sensible. Et je parlais de mythes ou je parlais de mémoire, de concurrence des mémoires. À un moment donné, si on veut objectiver un certain nombre de choses. On a besoin des documents, on a besoin de travailler sur du matériau concret.
Alors juste, je vais faire dérouler rapidement. Donc les archives, ça les peut photos. Être des photos. Ça, c'est en Corse. C'est
C'est encore un point aveugle, la Corse. Hein. À part Henri Padovani, dans Police, on se dit il n'y a rien en Corse. En réalité, on a commencé à construire les réseaux en Corse avec Spido, avec d'autres acteurs, et on mettra à jour cette scène punk corse qui a existé en 76, 77, comme partout sur le territoire.
Donc c'est des flyers de concert, évidemment. Michel, tu sais d'où ils viennent. Voilà. Donc c'est du squat de la Miroiterie à Paris. Ça, c'est les groupes qui eux-mêmes ont produit ça. Là, on est à Rouen.
Leur parenté. C'est les groupes de Rouen qui nous ont construit l'espèce d'arbre généalogique ou de relation.
Voilà. C'est des fanzines. Ça, c'est le plus évident, qui sont conservés à la Fanzinothèque à Poitiers et qui n'ont pas été beaucoup explorés. On pourrait mettre une armée d'étudiants dessus rien que pour dépouiller les fanzines.
Ouais, c'est un outil extraordinaire, la Fanzinothèque. Il y a près de 50 000 fanzines. C'est un outil extraordinaire qui est assez unique. Hein.
Voilà, c'est aussi. C'est ça. Alors, c'est aussi tout le travail de photographie. Donc, ça, c'est le squat de la Miroiterie qui, depuis, s'est effondré. Donc, c'est tout le travail de terrain qui fait qu'on photographie l'éphémère qui n'est pas destiné à durer. C'est la parole des acteurs. Ça, c'est le plus évident, en fait. Et alors, les archives, on en fait quoi? Donc là, ceux qui auront reconnu Monique et Dominique, qui nous captent aujourd'hui la journée, qui nous ont confié 35 ans de leur radio éphémère à Toulouse, qui l'ont amené à la punk dans un camion, mis dans mes bureaux au Centre de musique baroque de Versailles, donc à la punk aussi, finalement.
Il y a 17 mètres linéaires, rien que sur la radio.
Donc les archives, après, on en fait quoi? On les trie, ambiance les experts à Miami, voilà. On les range et on en fait un bel inventaire qui sert à quoi ? Qui sert à ce qu'un chercheur un jour vienne travailler dessus et fasse un bel article ou un livre sur le fonds d'archives.
Voilà, et l'idée, c'est évidemment de centraliser le plus d'archives possible et de créer, nous on aimerait créer un centre d'archives des contre-cultures, enfin des cultures alternatives qui partiraient du punk, mais bon, qui pourraient dépasser éventuellement cet objet.
Alors pour le coup là on va très très vite sur les chantiers du projet parce que c'est juste pour vous donner une idée. On a 4 gros chantiers. Je vais même pas mettre les images là parce qu'on n'aura pas le temps. Le premier chantier, c'est le temps. Donc le but, c'est de comprendre comment une culture musicale peut s'inscrire dans le temps, dans un temps long. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, on arrive à distinguer 3 générations. Une première 76-78 avec un son spécifique, évidemment, une esthétique spécifique, ça c'est évident. Je mets un peu de son quand même. Je pense que tout le monde connaît.
Métal urbain. Explose, électrique, mutant, métallique. Tu hackes un seul abîme. Tu violes, tu détruis. Panique, métal, panique, métal, panique, panique, panique.
Alors une deuxième génération. 81, l'avènement de Mitterrand, tout ce que ça porte en termes de nouvelles libertés, ne serait-ce que les radios libres. Puis très vite, le tournant de la rigueur, la montée du Front National et tout de suite la réponse des punks avec c'est le slogan que j'ai mis, la jeunesse emmerde le Front National. Donc une génération, pour le coup, anarcho-punk, avec apparition de la crête, beaucoup plus engagée politiquement et avec un son aussi qui est beaucoup plus homogène qu'il ne l'était à la période d'avant, où les sons sont beaucoup plus éclectiques. La période d'avant, c'est pas forcément facile de savoir quel groupe est punk ou pas. À partir de la génération 2, musicalement, c'est beaucoup plus simple. Alors, on a encore mis une boîte à rythme, on est désolé.
Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts.
Voilà. Avec le chanteur François Guillemot, qui est au CNRS et qui est dans notre équipe, évidemment.
Voilà, je fais partie de l'équipe.
Et une troisième génération, ou une quatrième, sûrement qu'il y en a deux, ça mérite d'être affiné, dans des contextes politiques différents, alors du point de vue musical, avec un son qui est beaucoup plus travaillé, aussi beaucoup plus homogène et beaucoup plus hybridé. Là, je vous mets un exemple avec les Tagada Jones, donc, qui est clairement hybridé de métal avec un peu de growling, etc. Voilà, il n'y aura pas de futur sans amis. Je vous laisse mesurer le changement de paradigme avec la première génération. Il n'y a pas de futur tout court, Destroy, etc. Donc vraiment un changement de paradigme dans ce que ça porte en termes de signification. Voilà, pour le temps, là je passe rapidement. C'est ce qu'on disait. Évidemment, travailler sur le vieillissement de la scène et puis sur le conflit des mémoires. Là, on avait mis l'affiche de l'exposition Europunk parce qu'en fait, il y a eu toute une correspondance dans la presse musicale entre le commissaire de l'exposition, Éric de Chassé, et Patrick Lynn, où chacun revendiquait, eux savaient ce qu'était le punk et ils n'étaient pas d'accord et donc ils se prenaient la gueule. Ça a duré assez longtemps, mais c'était intéressant parce qu'on voit bien comment les mémoires sont très conflictuels et comment il appartient à l'historien de trancher au milieu de tout ça, et c'est pas forcément facile. Alors, deuxième gros chantier, c'est l'espace, ou comment cette culture musicale punk s'inscrit dans l'espace, entendu au sens très large, géographique, social, avec deux choses, territorialité et mouvement. Alors, c'est-à-dire de ce côté-là, les Berruriers noirs qui finissent par splitter, et la moitié des Berrues part en Bretagne, font les Ramoneurs de Menhir, avec une musique qui reprend le répertoire des Berrues, mais qui est aussi clairement hybridée avec des instruments traditionnels, vous voyez, dans les looks, etc. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut s'ancrer dans un espace et du coup avoir le son de cet espace. Parce que pour avoir travaillé maintenant, on a vu pas mal de villes, on sait que le son du Pays Basque, c'est pas le même que le son de la Bretagne, pourtant c'est pas très grand la France, mais et que c'est pas le même que le son d'Orléans avec tous les groupes, etc.
On verra s'il y a un son à vrai.
Voilà, peut-être, c'est une bonne question. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces ancrages. Et la deuxième chose, c'est de travailler sur les transferts et les frontières. En gros, dans quelle mesure le festival Le Mont-de-Marsan peut avoir des liens avec ce festival-là qui est en Angleterre? Dans quelle mesure un groupe comme Cortatou, on se doute bien que chez les Basques, ça ne s'arrête pas la frontière au Pays Basque, donc il faut sûrement aller du côté de l'Espagne aussi si on veut réfléchir de manière plus large sur la scène punk dans le Pays Basque. Donc voilà, tout ce qui est transfert et frontières.
Un autre chantier, c'est travailler autour des systèmes de représentation, c'est-à-dire à la fois sur les formes de médiatisation et de médiation, c'est-à-dire comment on arrive à représenter la scène punk, comment les médias s'en emparent, comment cette scène se représente à elle-même. Donc on a mis quelques exemples. Il y a un passage très fascinant, par exemple, dans Rock'n'Folk, où là on a vraiment un dispositif de médiation. En 77, quand Rock'n'Folk, à la fois pour s'amuser, mais il y a quelque chose de sérieux, va présenter le punk à ses lecteurs, qui en France le découvrent, parce qu'on est aussi dans une culture qui est lue, va employer le code du roman photo. Et tout d'un coup, Stinky Toys se retrouve, c'est le groupe Stinky Toys, à faire les acteurs dans un roman photo pour Rock'n'Folk et à jouer en gros le groupe punk modèle. Hein, et alors, c'est quoi la journée d'un groupe punk? On boit de la bière au goulot, même les filles, etc. etc. Donc, on travaille aussi sur ces formes de médiation. pas que ça, travailler sur regarder comment, à un moment donné, dans cette espèce d'objet foutraque, anarchique, eh bien, on peut quand même arriver à distinguer une mise en ordre des codes. Bah, la fameuse crête, par exemple, qu'on va retrouver dans les fanzines, toute l'esthétique des fanzines, de la grande presse, et puis des choses puisées ou en échange avec la culture filmique, cinématographique. Vous avez reconnu Taxi Driver, qui sort en 76. Hein, autre chantier, quatrième chantier, c'est travailler autour de la violence, alors dans le sens très très large, hein, très très large, c'est-à-dire violence réelle, fantasmée, violence physique, violence symbolique, violence des émotions, voilà, c'est un vaste chantier, hein, pour regarder comment le punk se situe par rapport à cette notion très large des violences. Alors, le rapport au corps, par exemple, le rapport au corps qui danse avec l'invention d'une danse spécifique, le pogo, et puis après le slam, etc. Des corps particuliers, hein, qui se présentent de manière particulière, une manière de se vêtir, une manière de se coiffer particulière, de se tenir. Voilà. La place des femmes aussi qu'on interroge, quand on parle de violence, on interroge aussi la question des rapports hommes-femmes, la manière de construire des masculinités, des féminités, les violences symboliques. On parlait de paradoxe, alors peut-être que j'en ferai frémir certains dans la salle, mais nous on considère que malgré sa très très grande ouverture, puis là il faudrait distinguer les périodes, parce qu'il y a une période très déconstructionniste au début, hein, où le bassiste des Dames, par exemple, monte sur scène en tutu rose, donc on est... Et puis, juste après... On va reconstruire un petit peu comme dans le rock, hein, des codes assez machos. C'est quand même, ça reste une affaire de mecs essentiellement, le punk comme le rock en général. Même si aujourd'hui on pourrait considérer qu'il y a des formes d'ouverture, qu'il y a des mouvements très très féministes, hein, tendance riot girl, femen, etc. Mais en même temps, faut regarder, et là c'est pareil, objectiver, faut compter combien de filles, à quel endroit sont-elles, quel poste occupent-elles dans les groupes. Hein, alors des groupes de filles on connaît, après quand on... les groupes de filles on connaît, après les filles dans les groupes, qu'est-ce qu'elles font? Alors quand elles chantent, est-ce qu'il y a beaucoup de filles batteuses? Est-ce qu'il y a beaucoup de filles guitaristes? Voilà, travailler sur ces questions-là. Et puis, nous on travaille sur la scène, c'est pas que les musiciens au sens des musiciens en scène. Hein. C'est tout un réseau. Elles font quoi les filles? Est-ce qu'elles font du son? Est-ce qu'elles portent les caisses? Où elles sont? Quel type de... Et au squat, elles font quoi? Voilà, mais Michel pourra nous en parler peut-être. La question de la violence, elle recouvre aussi tous ces aspects, hein, des liens interpersonnels, des relations sociales, etc.
Voilà, et pour finir très très vite, bon, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore entamé mais qu'on va faire dans les prochaines années. C'est un travail spécifique autour de la stylistique du son punk. En gros, est-ce qu'on va arriver avec les technologies là, d'informatique, à modéliser un genre de son, quelque chose, des caractéristiques qui nous permettraient de dire ça c'est punk, de ça ça l'est pas d'un point de vue musical. Par exemple, on sait qu'il y a une prosodie, donc il y a une manière de poser la voix. Il y a eu des travaux faits là-dessus spécifiques au punk. C'est pas une manière de chanter qui est totalement... disons que c'est une manière qui est reconnaissable de chanter. Voilà, donc ce genre de travaux. On a une base de données collaborative qui est toute vide parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre des choses dedans, mais tout le monde peut entrer les données, elle est en ligne.
Enfin, on a commencé.
On a commencé, mais il y a pas.
C'est ouvert à tout le monde, c'est un outil collaboratif, voilà. Et il suffit de se loguer, même avec un pseudo, pour rentrer des infos sur les groupes, partout.
Évidemment, le socle du projet, c'est les journées comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire là, on disait que c'était la 28e. La 27e, demain à Montbéliard, il y en a une autre. Qui permet de mettre les gens en réseau. En gros, c'est la phase 1, parce qu'après, va falloir retourner sur le terrain pour aller chercher de l'archive, faire parler les gens, mais voilà, il faudra un peu de temps pour ça. Alors, pour finir...
PIND, c'est quoi ?
L'acronyme de Punk is not dead.
Punk pas mort.
Le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
C'est un retour vers No Future qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Paris, Toulouse, Caen, Rouen, Nantes, Bordeaux, Poitiers, Rennes, Montaigu, Montpellier ou Le Havre.
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre.
Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatous et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futurs.
Ça parle de 1977 et des années 80, 90, 2000, 2010.
Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule parfois, mais toujours pour comprendre.
Bref, c'est une recherche essentielle, pilotée et mise en musique par des chercheurs et des acteurs de la scène punk. Une équipe motivée et tellement motivée.
Do it yourself, just take a look. Merci. Voilà, merci beaucoup.
Oui, alors on a, mais c'est gentil, on a une collection qui est née depuis le mois de mai chez un éditeur parisien. La collection, elle s'appelle En Marge, hein, pas En Marche, En Marge, point d'exclamation. C'est une collection qui est dédiée en fait à accueillir les publications sur les contre-cultures de manière large, pas que le punk. Il y a un premier ouvrage qui est sorti qui était la thèse de notre post-doctorant qui est sur l'émergence du punk en France, RFA, RDA et Suisse. Il y a un deuxième livre qui va sortir fin novembre, qui est plus un livre de méthodologie, enfin qui s'appelle Chronique de recherche en terre punk, en gros qui c'est des récits d'égo-histoire qui racontent.
C'est la publication d'un séminaire, voilà, qu'on avait fait à l'EHESS.
Qui parle de comment, pourquoi on travaille sur ce genre de terrain et comment on travaille sur ce genre de terrain. Et va sortir le 12 octobre un lexique franco-punk aux éditions Nova, auquel ont contribué, je pense, tous les membres de l'équipe présents dans la salle, en fait. Il y a une quarantaine de contributions, 190 notices, qui abordent ces 4 ans de recherche. Donc, c'est pas exhaustif, c'est complètement subjectif. Il y a des entrées sur des gens pas du tout connus, sur des lieux pas du tout connus. Et voilà, donc, pas que, il y a aussi des trucs très canoniques, mais le 12 octobre chez Nova.